VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Anastasie Tudiech avec vous, il est 17h30 en temps universel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire, nouveau remous au sein de l'armée ivoirienne, des tirs ont été échangés entre forces de l'ordre à Boaké. Au Burkina Faso, inculpation du colonel Auguste Denise Barry, accusé notamment de complot. Un geste inédit en politique africaine, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a rendu visite au chef de l'opposition souffrant, Morgan Tsvangirai. Il faisait la une de l'actualité américaine depuis plusieurs jours, la fureur et le feu, le brûlot du journaliste américain Michael Wolff, consacré à Donald Trump et à son entourage, paraît ce vendredi. Dans 10 minutes, c'est la Minute Écho et les sports, mais d'abord le journal. Nouveau remous au sein de l'armée ivoirienne. La nuit dernière, des soldats ainsi que certains éléments du centre de coordination des décisions opérationnelles ont eu une altercation qui s'est soldée par des échanges de tirs à Boaké, Siriki Baro.
On ignore jusqu'à présent les raisons de cet autre incident au sein de l'armée à Boaké. Entre 3h et 5h du matin, les populations habitant les alentours du camp de la 3e région militaire ont été réveillées par des tirs. Selon nos renseignements, tout est parti d'une altercation entre soldats de la 3e région militaire et certains éléments du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO. Des échanges de tirs qui, toujours selon nos sources, n'ont fait aucune victime. Par ailleurs, au cours de cette même nuit, une patrouille du CCDO a été la cible d'individus armés au quartier Dar es Salaam. Bilan de cette attaque, un blessé dans les rangs du CCDO. Après cette nuit agitée, les populations, dont la plupart ignorent ces événements, vaquent tranquillement à leurs occupations. Une délégation du haut commandement est arrivée ce jour à Boaké pour comprendre les raisons de ce soubresaut. Siriki Baro, Boaké pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le procureur militaire confirme l'inculpation du colonel Auguste Denise Barry pour complot et incitation de militaires à la commission d'actes contraires à la discipline et aux devoirs. Le colonel Barry, qui dirige le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité, a été placé en détention immédiatement après sa comparution. Ce proche de l'ancien premier ministre de la transition, Yacouba Isaac Zida, était soupçonné de fomenter une opération de déstabilisation du régime du président Kabore. Au Sud-Soudan, des heurts ont éclaté près de Juba, la capitale, entre des troupes gouvernementales et les rebelles, en violation du cessez-le-feu signé le mois dernier. Eki Abadou.
Les affrontements armés ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à l'ouest de Juba, dans le secteur de Kapour. C'est la première fois que des heurts sont signalés près de la capitale. Les autorités sud-soudanaises accusent les rebelles d'avoir attaqué des positions gouvernementales en dépit du cessez-le-feu en vigueur. Plusieurs morts selon le porte-parole de l'armée. « Nous n'attaquons jamais Juba », souligne Lam Paul Gabriel, porte-parole adjoint des forces de Riek Machar. Pour les rebelles fidèles à l'ex-vice-président, il s'agit de propagande visant à attribuer des violations du cessez-le-feu aux adversaires du gouvernement. En début de semaine, les membres de la Troïka, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège, avaient adressé une sévère mise en garde aux chefs militaires des deux parties en conflit, une guerre qui, depuis 4 ans, ont coûté la vie à des dizaines de milliers de gens. La Troïka leur demande de respecter l'accord de cessation des hostilités signé le 21 décembre à Addis Abeba par le gouvernement sud-soudanais et les groupes rebelles.
Au Zimbabwe, le chef de l'opposition, Morgan Tsvangirai, a reçu la visite du nouveau président, Emmerson Mnangagwa. Une rencontre saluée par l'opposition. Claire Morin-Gibourg.
Le président Mnangagwa et son vice-président Chamisa se sont entretenus avec Morgan Tsvangirai, atteint d'un cancer du côlon. À l'issue de cette visite effectuée au domicile du chef de l'opposition, le président zimbabwéen s'est voulu rassurant. Il va très bien, il récupère très bien, a assuré le chef de l'État. Pour Nelson Chamisa, cette visite de courtoisie est un exemple de la vie politique que nous souhaitons. C'est la politique de la paix, du travailler ensemble. Voilà notre direction, a affirmé le vice-président zimbabwéen. Investi par la ZANU-PF, le parti au pouvoir, Emmerson Mnangagwa a promis des élections transparentes, libres et honnêtes. Des propos mis en doute par certains opposants qui rappellent que M. Mnangagwa a longtemps été le bras droit de l'ancien dictateur Robert Mugabe.
Et toujours au Zimbabwe, un touriste zimbabwéen de 90 ans a été tué et une touriste grièvement blessée par un crocodile qui a attaqué leur bateau pneumatique dans le parc national de Matopos, près d'un barrage infesté de crocodiles. Il faisait partie d'un groupe qui pique-niquait au moment de l'incident. Il est regrettable qu'ils aient utilisé des bateaux pneumatiques qui ne sont pas autorisés, a fait savoir l'autorité de gestion des parcs et de la faune du Zimbabwe. La police sud-africaine a annoncé l'ouverture d'une enquête pour homicide involontaire au lendemain de la collision dans le centre du pays d'un train et d'un poids lourd qui a fait au moins 18 morts et plus de 200 blessés selon le dernier bilan. En Libye, des combats entre groupes armés ont éclaté dans l'ouest du pays, près de la frontière tunisienne, provoquant la fermeture du point de passage principal entre les deux pays. Les affrontements opposent deux groupes qui affirment tous deux leur loyauté au gouvernement d'union nationale, le GNA, basé à Tripoli et appuyé par la communauté internationale. En Égypte, Noël sous haute protection demain samedi pour les Coptes, après une année particulièrement meurtrière pour ce qui est la plus importante communauté chrétienne du Proche-Orient. Depuis plus d'un an, les Coptes, dont le pape Tawadros II est un fidèle soutien au régime du président Abdel Fattah al-Sissi, ont été la cible de plusieurs attentats, notamment contre des églises, qui ont fait plus de 100 morts.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, Séoul et Pyongyang se sont mis d'accord ce vendredi pour tenir mardi prochain leur première discussion en 2 ans dans un nouveau signe de détente à 1 mois des Jeux Olympiques en Corée du Sud. Nathalie Barge.
La rencontre entre les deux Corées aura lieu le 9 janvier à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée. Elle portera notamment sur les Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud et sur la question de l'amélioration des relations intercoréennes. Cette reprise de dialogue intervient après 2 années de tensions au cours desquelles la Corée du Nord a mené de nouveaux essais nucléaires et balistiques. Les pourparlers de fin 2015 s'étaient soldés par un échec et avaient été suivis par un 4e essai nucléaire nord-coréen. Pyongyang, qui soutient avoir besoin de l'arme atomique pour se protéger de l'hostilité de Washington, est sous le coup de multiples trains de sanctions internationales, dont 3 nouvelles séries votées l'an dernier par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Pour les Palestiniens, elle est devenue une icône de la lutte contre l'occupation israélienne. Ahed Tamimi, 16 ans, arrêté avec sa cousine Nour, 20 ans, le 19 décembre, pour avoir frappé des soldats en Cisjordanie, restera, ainsi que sa mère, en détention jusqu'au 8 janvier. Le tribunal militaire d'Ofer a retenu lundi 12 chefs d'inculpation contre l'adolescente et 5 contre sa mère, Nariman. Ahed Tamimi, qualifiée dans les médias israéliens de provocatrice, s'est fait connaître par des confrontations avec l'armée israélienne depuis ses 12 ans. Suspension définitive de la liaison Madrid-Malabo pour Iberia. La compagnie aérienne espagnole a annoncé que la décision serait effective le 22 janvier, malgré le refus exprimé fin décembre par Malabo de cette décision. En cause, les taxes aéroportuaires élevées, le coût du carburant et le peu de profit sur cette ligne, selon les médias équato-guinéens. La compagnie espagnole Iberia dessert la Guinée équatoriale depuis près d'un demi-siècle. La Cour suprême espagnole, on reste donc en Espagne avec la Cour suprême espagnole qui a décidé de maintenir en prison l'ancien vice-président indépendantiste catalan Oriol Junqueras, incarcéré pour rébellion présumée. Monsieur Junqueras vient d'être réélu député régional. Les 3 magistrats composant la chambre d'appel de la Cour ont décidé à l'unanimité de confirmer la décision de placement en détention, affirmant qu'il y a bien dans le dossier des indices de commission des délits de rébellion, sédition et malversation de fonds de la part de Monsieur Junqueras, incarcéré depuis 2 mois. En France, Marine Le Pen réclame dans un tweet l'arrêt définitif du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. La chef de file de l'extrême droite française a bien choisi son moment. Le président Emmanuel Macron recevait, au moment où elle a publié son tweet, son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Monsieur Macron a déclaré lors d'une conférence de presse commune avec Monsieur Erdogan que les évolutions récentes en Turquie dans le domaine des droits de l'homme excluaient toute avancée dans les négociations d'adhésion de ce pays à l'Union européenne. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Arzuma Compaoré.
Interruption de la distribution de la presse internationale au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Des difficultés pour les distributeurs locaux à honorer leurs impayés auprès du groupe de distribution français Prestalis en serait la cause. Depuis le 22 décembre, le distributeur ivoirien Edipresse ne reçoit plus de presse internationale en raison d'un différend financier l'opposant au groupe français. Selon Bertrand Hall, le directeur général d'Edipresse, cela représente une perte de 25 millions de francs CFA par semaine. Jusqu'à une date récente, Edipresse et le Sénégalais ADP étaient tous les deux des filiales de Prestalis. Le gouvernement marocain a promis jeudi de mettre en place un nouveau plan de développement pour la région du Nord-Est, plongée dans un marasme économique depuis la fermeture des mines à la fin des années 1990. Après la mort accidentelle de deux mineurs dans un puits de charbon clandestin, un mouvement auto-baptisé « Marche du pain noir » manifeste quotidiennement. Le ministre de l'Énergie, Aziz Reba, a tenté de jouer des pompiers à Gérada avant que le gouvernement assure, dans un communiqué publié jeudi 4 janvier, que l'appel de Gérada a été entendu. La compagnie aérienne espagnole Iberia avait annoncé la suspension définitive de ses vols vers Malabo en raison des taxes aéroportuaires élevées, du coût du carburant et du peu de profit sur cette ligne. C'est ce qu'avaient relayé les médias d'État équato-guinéens en décembre. Le gouvernement de Guinée équatoriale avait rejeté le 19 décembre cette décision de suspendre les vols, estimant à l'époque que le gouvernement espagnol doit prendre ses responsabilités. La compagnie espagnole Iberia dessert la Guinée équatoriale depuis près d'un demi-siècle.
Place au sport à présent avec vous, Dili Dico. Bonsoir.
Bonsoir, Anna. Oui, et on enchaîne avec du foot, le championnat d'Espagne.
Alors, le Barça champion ?
Pas encore, Anna. Le FC Barça plane sur un nuage, mais il ne devrait pas s'endormir sur ses lauriers. Certes, à mi-saison, le FC Barça a repoussé à 9 longueurs son plus proche concurrent, l'Atlético Madrid. Un écart quasi définitif dans l'histoire récente du championnat d'Espagne. Mais gare au triomphalisme ce week-end, lors de la 18e journée. Dimanche après-midi, le Barça devra garder le cap au Camp Nou face à Levante, 16e, au risque de relancer les appétits adverses. Au classement, les rivaux sont loin, très loin même. À deux matchs de la fin de la phase aller, le club catalan, premier avec 45 points, est déjà champion d'hiver. Et c'est la seule équipe encore invaincue dans cette Liga, dont le titre lui semble promis depuis le Classico remporté face au Real Madrid, 3-0 fin décembre. Lionel Messi, Luis Suarez et Andrés Iniesta, ménagés jeudi en Coupe du Roi à Vigo, devraient faire leur retour. Et Ousmane Dembélé, qui a enfin repris la compétition après plus de 3 mois de blessure, va apporter davantage d'options au Barça.
Voilà des informations qui risquent d'intéresser le Real. D'ailleurs, comment réagit-il, le Real ?
De son côté, le Real veut croire à l'incroyable. Relégué à 14 longueurs du Barça, le Real 4e avec 31 points semble avoir abandonné la couronne de champion d'Espagne à son grand rival. Mais l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane a su rêver d'une folle remontada, surtout avec le retour de Gareth Bale en pleine forme. Le problème sera plutôt défensif dimanche soir sur la pelouse du Celta Vigo, où le défenseur et capitaine Sergio Ramos sera absent en raison d'une blessure au mollet gauche.
Football toujours, démission au sein du Comité international olympique ?
Alors, Anna, le néerlandais Camille Eurling, sous le feu des critiques pour une affaire de violence conjugale, a démissionné ce vendredi de ses fonctions du Comité international olympique. Cet ancien ministre et patron de la compagnie aérienne KLM était membre du CIO depuis 2013.
Et côté bolide, une nouvelle édition du rallye de Dakar ?
L'édition 2018 du rallye Raid Dakar débute demain, samedi 6, et s'achèvera le 20 janvier. Elle se déroulera entre Lima et Cordoba en Argentine.
Merci Dili Dico.
Merci Anna.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est 18h45 à Niamey. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Premier dossier de notre parti magazine, le Niger, où le gouvernement a décidé de procéder à un recensement biométrique de plus de 250 000 personnes qui ont fui les atrocités de Boko Haram et vivent depuis 3 ans dans la région de Difa. Cette démarche vise à maîtriser leur nombre pour faciliter une intervention plus efficace des structures humanitaires en leur faveur. L'opération a démarré et se poursuit, comme a pu le constater notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, qui était récemment à Difa.
Sur le site de Assaga, un des 3 centres hors camp sur lesquels se déroule l'opération depuis novembre 2017, l'affluence est grande. Avec ses 3 enfants, Malam Chefou, originaire d'un village du Nigeria, a pu se faire un chemin pour pouvoir accéder au premier stand où son statut de réfugié, de retourné ou de déplacé est déterminé à la suite d'un long interrogatoire. Il passe ensuite au stand protection tenu par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Nafissa Moussa, du bureau HCR d'IFA.
Ce qu'on fait à notre niveau, c'est la protection. Donc, des personnes à besoins spécifiques. Et prioriser les gens qui sont les handicapés, les vieillards, les femmes seules.
Madame Chefou passera ensuite dans 8 autres stands avant d'être en possession de ses documents important pour ses chefs de famille.
Avec la carte, je peux voyager d'un état à l'autre sans problème. Nous sommes vraiment contents. Que Dieu récompense les initiateurs.
Cette opération de recensement est supervisée par la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié. Amma Suleiman Elhaj est administrateur adjoint au niveau de cette commission.
Quand le réfugié vient ici, il ne va sortir qu'avec ses documents complets, son attestation, sa carte d'identité des réfugiés, tout. L'objectif, c'est d'abord maîtriser les chiffres. Parce que depuis un certain temps, il y avait beaucoup de difficultés relatives aux chiffres. Donc après cette opération, ce problème ne va plus se poser.
Au-delà de la maîtrise du nombre de personnes en mouvement due à la situation sécuritaire, l'opération vise également un meilleur suivi de l'aide à apporter à ces populations vulnérables, selon le directeur régional de l'état civil des migrations et des réfugiés de Difa, Oumarou Boubacar.
Avec le recensement biométrique, nous connaissons qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites et où êtes-vous. Ce qui va nous permettre de bien maîtriser ces populations-là, et même y compris pour l'assistance, parce que même s'ils se déplacent d'un site à un autre, on peut les référer à travers ce recensement biométrique. Donc il n'y aura plus de fraudes qui sont habituées à faire.
Aide et assistance, c'est justement ce qu'attendent la plupart des chefs de ménage venus pour se faire enregistrer à l'occasion de cette opération.
J'ai reçu ma carte, c'est bien, mais je veux plus parce que nous souffrons ici. On a besoin de nourriture et de faire des petites activités génératrices de revenus.
Selon la direction régionale de l'état civil de Difa, à la mi-décembre 2017, plus de 37 000 personnes ont été recensées à la biométrie. Abdulrazak Idrissa, de retour de Difa pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Ici, aux États-Unis, les États de la côte Est sont sous l'emprise d'une vague de froid à la suite d'une gigantesque tempête de neige appelée bombe cyclonique. Elle a occasionné des chutes de neige comme les États du Sud en voient rarement. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclenché l'alerte grand froid pour certaines parties de l'État. Le mauvais temps a aussi paralysé des milliers de vols et a causé un déraillement de train en Géorgie. Reportage Zlatika Hockey. Récit Raissa Girondin.
La visibilité était mauvaise à Times Square à New York, alors que les équipes de déneigement nettoyaient les rues environnantes. Michael Vente, travailleur à Times Square.
Comment ça se passe? C'est dur. Mais on doit le faire. Faut bien qu'on le fasse.
Mais les habitants ainsi que les visiteurs sont sortis braver le froid. Ebony Sugar, visiteur d'Australie.
Je pense que c'est une grande nouveauté. Je ne sais pas si j'aimerais la voir chaque hiver. Je suis très à l'aise avec la chaleur en Australie. Mais c'est une bonne nouveauté.
Mais quand le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé un état d'urgence jeudi, il a recommandé vivement aux citoyens de rester loin des routes dans la mesure du possible.
J'ai été sur la majeure partie des routes dans la région métropolitaine ce matin. Je peux vous dire que c'est horrible, dangereux et lent. Donc bien que nous soyons des New-Yorkais invincibles, un peu de prudence. Et si vous n'avez pas l'obligation de sortir aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour pour conduire si vous n'êtes pas obligé de conduire.
Le temps glacial a causé le déraillement d'un train d'Amtrak avec presque 300 passagers à la station de Savannah en Géorgie. Il n'y a eu aucune perte humaine dans ce train qui reliait Miami à New York. Mais les accidents de la route sont fréquents sur les autoroutes des États qui voient rarement la neige. Trey de Lamar, habitant de Savannah.
Les gens n'ont juste pas d'expérience de conduire dans la neige, donc nous n'avons pas beaucoup de camions pour saler la route. On préfère gratter parce que nous n'en avons pas besoin souvent, donc c'est un peu difficile et un peu plus lent pour se déplacer.
Les familles voyageant dans le sud pour fuir la neige ont bien été surprises. Jessica Rufus, touriste de Chicago.
Nous avons pensé qu'en allant dans le sud, ça allait être agréable et chaud. Nous avons quitté la neige et le temps froid de Chicago, mais toujours de la neige, quoique c'est beau.
Mais les habitants locaux ne sont pas habitués au froid et même les sans-abri en Floride ont eu à rechercher un toit. Le froid glacial devrait s'atténuer lundi.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer à votre avis à 18h temps universel sur VOA Afrique. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a rendu visite au chef de l'opposition Morgan Tsvangirai. Que pensez-vous des rapports entre les diverses forces politiques de vos pays respectifs ? Opposition et pouvoir parviennent-ils à travailler ensemble ? À votre avis, les dialogues politiques sont-ils efficaces ? Pour participer et témoigner, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. À tout à l'heure sur VOA Afrique.
Nous étions aux États-Unis pour des raisons climatiques. Restons-y. Du côté libraire, la publication aujourd'hui du livre Fire and Fury Inside the Trump White House décrit une Maison Blanche soumise aux sautes d'humeur et à la personnalité supposément superficielle du président Donald Trump. Pour le locataire de la Maison Blanche, l'ouvrage contient des mensonges, des déformations et des sources qui n'existent pas. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Richard Conley, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride. Écoutons-les.
De ce que j'ai compris, Michael Wolff avait un accès au personnel de la Maison-Blanche au début de l'administration. Pourquoi c'est inconnu en ce moment? Parce qu'il a une réputation de, je ne veux pas dire mentir, mais peut-être agrandir les histoires. Donc, il y a plusieurs personnels dans la Maison-Blanche qui ont déjà dit qu'ils n'ont pas dit ce qui est dans le livre. Donc, voilà.
Justement, la plupart des témoignages sont anonymes. Cela pose-t-il problème?
Oui, ça devient un problème pour les médias. Mais il y a des journalistes qui rapportent que les gens disent des choses, mais ils refusent de donner leur nom. C'est sous condition d'anonymité qu'on est libre de parler. Et donc, il n'est pas un moyen de pouvoir vérifier cela. Ce n'est pas seulement le problème avec le livre de Michael Wolff, mais pour les médias en général en ce moment. Et ça doit être assez frustrant pour n'importe quel président.
D'après des extraits, personne au sein de l'équipe de campagne ne s'attendait à ce que Donald Trump remporte l'élection et lui-même ne voulait pas devenir président. Faut-il mettre en question la crédibilité de l'auteur, encore une fois ?
Oui, peut-être. Moi, je ne connais pas très bien son travail, mais bien sûr, pour le président, comme j'ai dit, ça doit être très frustrant. Alors, si Trump n'a pas été motivé pour devenir président, mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Enfin, il a chassé 16 autres candidats républicains. Il a gagné contre Hillary Clinton. Je ne sais pas. Et il est très difficile de juger les motivations des journalistes ou même d'autres dans la Maison Blanche. Nous avons la situation maintenant avec Steve Bannon qui est très bizarre. Mais le problème, je crois, pour Trump, c'est que ça continue tout le temps. Il y a toujours quelque chose avec les médias, et toujours sur Twitter, et il dit des choses. Et puis c'est difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai.
Les avocats du président pourront-ils empêcher la publication du livre?
Non, je ne crois pas. C'est très difficile. Vous savez, nous avons la Constitution, la première amendement. On est libre de publier n'importe quoi. Bien sûr, s'il y a des mensonges, ça existe parfois, mais c'est très difficile de passer la barre pour les cours américains d'empêcher la publication de quelque chose. Ben, il faut peut-être demander à Richard Nixon qui voulait empêcher les Pentagon Papers dans les années 70. Il a échoué. Donc tout cela entre Bannon et Trump, les avocats et les menaces des juges, ça ne va nulle part.
Une étoile du football africain vient de s'éteindre. Lai Moussa Camara, dit Papa Camara, ancien footballeur et milieu de terrain du célèbre Afia FC et du Sili National de Guinée, a tiré sa révérence le 4 janvier dans une clinique de Conakry, des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 68 ans. Papa Camara, dans une interview accordée à Georges Léonard Sagnot en septembre dernier, écoutons-le.
Je suis né le 7 novembre 1950 à Conakry, et puis de Mamadouba Camara qui travaillait au PTT, ensuite de Fatou Dina Camara. Donc j'ai évolué, j'étais dans le sport de main, le basketball, le volleyball, le tennis de table, et mon beau-frère Cheikh Top, par rapport à son insistance, m'a amené dans le football. Grâce à Dieu, j'ai fait ce que j'ai pu faire dans ce football-là pour le pays, voilà. Et le reste, vous devez le savoir. Heureusement qu'il y a encore des archives qui peuvent le confirmer. Donc, c'est ce que je peux vous dire.
Nabi Lai Moussa Camara, parlez-nous de Afia, le club au sein duquel vous avez évolué et que vous continuez à défendre aujourd'hui.
J'ai eu une chance parce que j'avais eu, à mon arrivée dans le Afia, n'est-ce pas, des grands footballeurs, Eric Suleiman, qui fut l'unique ballon d'or de la Guinée, Maxime Camara, qui n'est plus de notre père à son âme, et du coup, mais avant tout ceci, j'ai commencé par Conakry, avec les candidats pour M. Bu, qui jouait dans l'équipe nationale, j'ai eu la chance de jouer avec Kandjagando, les Billing qui Souma. Aujourd'hui, à ce métier, heureusement, il va beaucoup mieux aujourd'hui, malade, mais il va beaucoup mieux. Beaucoup de personnes. Et après, pratiquement, ça a été, si vous voulez, une forme de sélection nationale. Parce que tous les meilleurs footballeurs de la Guinée, vous les amenez dans le FIA Football Club.
Quel est le secret de votre entente et de vos succès?
Il n'y avait pas de secret.
Parlez-nous, Papa Camara, de la victoire du Afia 77. On en parle beaucoup. Que s'est-il passé réellement?
Pour le triplé, moi j'ai participé à toutes les coupes remportées par le Afia Football Club. 72, 76, 76, qu'on a raté, 77. Le président Mendes Touré, chaque fois qu'il parlait, disait le Afia Football Club, notre équipe nationale. Peut-être que ça a été bon, une motivation pour certains dirigeants qui étaient à côté. Et la première coupe du Afia dans les buts, j'avais Bernard Sina qui était à Boulibiné de Conakry, Jacob Bangoura de Conakry, Frédéric Sekou de Conakry, Thomas Solba et Dante, seul et Calva qui étaient de Conakry 2 là. Il était à Moussman Solo parce qu'il était à l'université, il est de Conakry. Hein. Le salaire des anciens footballeurs, on ne paye plus depuis combien d'années là?
C'était le défunt Papa Camara, ancien footballeur du Afia FC et du Sili National de Guinée, au micro de Georges Léonard Sagnot. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Lionel Gaïma, assisté de Dan Crafton. Je suis Anastasie Tudiech. Pour l'actualité 24 heures sur 24, rendez-vous sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Très belle soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso
et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.